La province sud baisse son budget de 4%, une décision adoptée hier à l'unanimité en raison de la chute des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie après l'insurrection du 13 mai dernier. L'actualité nationale, les parlementaires LR soutiendront Michel Barnier. On a besoin d'une politique de droite contre les hausses d'impôts pour plus de sécurité et moins d'immigration. Déclaration de Laurent Wauquiez lors de la rentrée parlementaire de son groupe. En Azerbaïdjan, un Français condamné à 3 ans de prison pour un graffiti. Paris dénonce un traitement arbitraire et ouvertement discriminatoire de la part de la justice de Bakou. Retour en métropole, Notre-Dame de Paris va retrouver ses cloches. Très sévèrement touchées dans l'incendie il y a 5 ans, elles ont été restaurées. Une cérémonie se tenait hier soir pour leur bénédiction. Réouverture de la cathédrale prévue le 8 décembre. Le sport et le PSG qui refusent de sortir le carnet de chèques. La LFP enjoint le club parisien de verser 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. C'est peu ou prou 6,6 milliards de francs. Il s'agit d'un payé pour 3 mois de salaire et des primes. L'affaire pourrait donc se retrouver devant les prud'hommes. La météo en Nouvelle-Calédonie, le ciel reste souvent très nuageux à couvert. Des averses se développent sur les reliefs et débordent localement sur la côte ouest. Quant au vent, il baisse. Les températures maximales, elles, sont stables et comprises entre 26 et 30 degrés. Elles restent donc supérieures aux valeurs de saison.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité sur le territoire.
Oui, et l'impact dévastateur des émeutes sur les finances de la province sud qui a contraint la collectivité à réajuster son budget et donc à revoir ses ambitions à la baisse. Et ce, pour la deuxième fois depuis le mois de juillet dernier. C'est le constat dressé hier en séance plénière, Léana Colombo.
Le Congrès avait estimé à plus de 32 milliards de francs les pertes de recettes fiscales qui alimentent l'ensemble des collectivités. Et la province sud est concernée à hauteur de 10 milliards. La décision adoptée ce matin à l'unanimité implique une baisse du budget provincial de 4%, qui va se traduire par une nouvelle diminution des dépenses de fonctionnement de 11%. Écoutez Sonia Baquès, la présidente de la province sud.
La perte de recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie qui est liée aux exactions a généré une perte budgétaire pour la province de 10,8 milliards. Donc la province a été chercher au bout de ce qu'elle pouvait aller chercher en dehors des dépenses obligatoires que sont les salaires et les engagements déjà lancés, les travaux déjà lancés, etc. On a en gros tout coupé et malgré ça, on a encore une impasse budgétaire de l'ordre de 3 milliards qui est couverte par une subvention exceptionnelle de l'État sur laquelle on est en train de travailler, sur la reconstruction d'une part, d'autre part sur de nouveaux investissements publics. Concrètement, sans ça, on ne serait pas capable de payer nos salaires jusqu'à la fin de l'année. C'est la réalité aujourd'hui à laquelle est confrontée la province et ça ne va pas s'arranger. C'est-à-dire que concrètement, si on n'a pas d'aide de l'État dans des délais très courts, c'est ce que j'ai défendu à Paris et c'est ce que nous continuons à défendre également, je crois, tous ensemble au Congrès, les collectivités seront en cessation de paiement. Donc là, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais malgré tout, on est dans une situation difficilement supportable.
La province sud qui a également acté la fermeture définitive du collège de Rivière-Salée. Autre conséquence des émeutes déclenchées par la CCAT, des travaux de rénovation de ce collège étaient initialement prévus, mais ils portaient sur la rénovation des deux bâtiments qui ont finalement été détruits. Et face à l'ampleur des travaux nécessaires, la province a dû prendre une décision évidemment difficile. Gilles Brial est le deuxième vice-président de la province sud.
Je comprends que cette décision est difficile pour les parents, mais il faut être pragmatique. Le collège de Rivière-Salée a été aux deux tiers détruit, 750 millions pour essayer de le remettre en état. Et donc on n'a pas la capacité technique de faire autant de travaux en maintenant le collège ouvert, c'est-à-dire de tout démolir et de tout reconstruire avec des salles de cours à côté. Et on n'a pas aujourd'hui la capacité financière. Et ça, malheureusement, ce qui se passe pour le collège de Rivière-Salée, ça va se passer pour beaucoup d'établissements et de services publics. On a perdu énormément de recettes fiscales et on a perdu énormément de nos murs, de nos bâtiments. Donc ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles ces élèves et ils seront bien accueillis au collège de Porte de Fer. Donc pour les collégiens de Rivière-Salée, il n'y aura pas une perte de qualité de l'enseignement et c'est ça qui est important pour nous.
Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura plus de collège à Rivière-Salée, mais il va falloir tenir compte de l'évolution de la démographie, souligne Gilles Brial.
Il y a une grosse baisse de la démographie. Avant le 13 mai, ces 4 dernières années, on avait perdu 1400 élèves dans le primaire et 500 juste dans le secondaire pour Nouméa, dans les collèges de la seule commune de Nouméa. Et là, depuis le 13 mai, on a perdu 1130 élèves dans les écoles primaires de province sud, dont 700 qui ont quitté le territoire. Donc je dirais les futures constructions se feront avec beaucoup moins de moyens financiers, donc elles devront se faire là où il y a vraiment besoin.
Un dossier qui a donné lieu à un débat plutôt houleux entre l'exécutif, les élus indépendantistes et Calédonie Ensemble. Ces derniers étaient opposés à une fermeture définitive du collège. L'UCFLNKS et Calédonie Ensemble, ainsi que les élus de l'éveil océanien, ont d'ailleurs voté contre, après avoir tenté en vain de faire renvoyer la délibération à une date ultérieure.
Dans l'actualité judiciaire, Léana, deux informations judiciaires ouvertes après le refus d'obtempérer de la foi, c'était samedi dernier.
Oui, le chauffeur qui a renversé un gendarme pour échapper à un contrôle est mis en examen pour tentative de meurtre sur un militaire de la gendarmerie nationale et conduite sans permis en récidive. Ce jeune de 24 ans possède 15 condamnations sur son casier judiciaire, dont certains pour violence volontaire sur personne, dépositaire de l'autorité publique. Et il était par ailleurs sous le régime de la libération conditionnelle. Il a été placé en détention provisoire. Sa compagne, la propriétaire de la voiture qui était passagère, est quant à elle mise en examen pour complicité de tentative de meurtre sur le gendarme et complicité de conduite sans permis. Elle est sous contrôle judiciaire. Je rappelle que le gendarme sur qui la voiture a foncé s'est retrouvé sur le capot, ce qui a entraîné plusieurs plaies sur le corps. L'incapacité totale de travail a été fixée à 10 jours. Le procureur Yves Dupas ajoute qu'il s'agit de faits très graves d'atteinte aux forces de l'ordre qui justifient un traitement judiciaire particulièrement ferme.
En bref, la réserve sanitaire bientôt mobilisée en Nouvelle-Calédonie pour répondre aux besoins en personnels médicaux. Le Haut-Commissariat, en échange avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, annonce plusieurs renforts de métropole. Au total, 2 urgentistes, 4 médecins généralistes, 3 oncologues et 2 pédopsies seront répartis en 2 rotations au Medipôle et au centre hospitalier du Nord.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord. 98% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent choqués que la secrétaire générale du RDO, Laurie Oumouni, soit en charge au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des secteurs de la construction et de l'habitat. Ils ne sont que 2% à dire que cela ne les choque pas. Voici maintenant notre question du jour. Trouvez-vous normal que l'instruction du dossier des responsables de la CCAT se fasse en Nouvelle-Calédonie et ne soit pas dépaysée comme le demandaient les avocats du FLNKS ? Si vous trouvez cela normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et j'ajoute à ce sujet que dans un communiqué, les avocats de la CCAT ont réagi au rejet de leur demande de dépaysement de l'instruction par le procureur général près la cour d'appel de Nouméa. Ils annoncent d'ailleurs saisir le procureur général près la cour de cassation pour reformuler une demande de dépaysement. Toujours en bref, on l'apprenait hier soir, le dernier vétéran calédonien de la Seconde Guerre mondiale s'est éteint hier à l'âge de 100 ans. Jacques Lucien avait seulement 16 ans lorsqu'il s'est engagé dans les FNFL, les forces navales de la France libre. Il a notamment servi aux États-Unis et dans l'Atlantique sur des navires qui escortaient les ravitailleurs. Menuisier de profession, Jacques Lucien possédait la double nationalité franco-australienne. Et à l'occasion de son 100e anniversaire, le 5 mai dernier, il avait d'ailleurs reçu une carte de félicitations manuscrite du roi Charles III d'Angleterre et une autre du Premier ministre australien. Les obsèques de Jacques Lucien seront célébrées le lundi 16 septembre à 15h au centre funéraire de Nouméa. Et avant de refermer cette page, vos rendez-vous sur notre antenne. Il ne s'était pas exprimé depuis un long moment dans les médias. C'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Alors, quelle est la situation 4 mois après le début des émeutes? Où en est le retour à l'ordre public? Quelles sont les aides de l'État? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront posées au haut-commissaire. Une interview à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et avant cela, ce matin, à 7h30, nous recevrons le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, Jean-Christophe Niotou, à l'occasion du Grand Marché Broussard. Il aura lieu demain à la halle de Ducos. Le mode d'alimentation des Calédoniens évolue, les marchés de proximité connaissent un véritable élan et la proximité est aujourd'hui de plus en plus recherchée. Eh bien, nous en parlerons ce matin avec notre invité Jean-Christophe Niotou. En attendant, il est 6h passées de 40 minutes. La suite de l'actualité, ce sera juste après la pub et on partira en métropole, notamment pour les dernières consultations de Michel Barnier en vue de former son gouvernement.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Dernière semaine pour faire des économies. Les 10 jours à petit prix chez Citec. C'est jusqu'au 14 septembre avec des promos jusqu'à moins 50%. Nous vous attendons à la braderie 3 rue Fernand Forest à Ducos. Suivez Citec NC sur Facebook.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et je le disais donc, Michel Barnier était en déplacement en Savoie, au contact des siens, les LR, réunis pour la rentrée des Républicains à Annecy. On dit que le Premier ministre devrait présenter son équipe gouvernementale en tout début de semaine prochaine. Et les postes des ministères régaliens sont donc très convoités. Et la droite s'est dit prête à rentrer au gouvernement, Alexandre Chauveau.
Oui, en affichant un soutien très clair à Michel Barnier, même si celui-ci a mis un peu de temps à s'exprimer aussi clairement, tout simplement parce que beaucoup à droite voulaient un minimum de garanties sur la politique qui sera conduite dans les prochains mois. Alors tous les parlementaires sont évidemment conscients qu'LR ne pourra pas gouverner seul, mais ils réclament de la cohérence au poste clé, en clair au ministère de l'économie, à l'intérieur et à la justice. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure en filigrane Laurent Wauquiez, quelques minutes après le départ du Premier ministre.
La nomination de Michel Barnier est une excellente nouvelle. Et il aura le soutien très clair de tous nos parlementaires. Les Français ne veulent pas que ça continue comme avant. Et notre conviction, c'est que sur un certain nombre de domaines, on a besoin d'une politique de droite. Pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'il y ait moins d'immigration. Et notre engagement sera aux côtés de Michel Barnier pour l'aider à ce que ces politiques puissent être menées. Et ce sera tout le sens de notre implication à ses côtés.
Voilà, Laurent Wauquiez est conscient aussi que le pacte législatif proposé par la droite cet été ne pourra pas être repris intégralement. C'est une base de travail, mais ça ne sera pas la seule, l'aura dit Michel Barnier tout à l'heure. Le Premier ministre qui cherche donc toujours le meilleur équilibre entre ses velléités politiques et la réalité d'une assemblée fragmentée.
Justement, Michel Barnier qui a également précisé que son gouvernement serait sérieux et équilibré.
Là aussi, je vais prendre le temps. Je suis un montagnard, c'est un pas après l'autre. En faisant attention, on met les pieds. Et donc, je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine avec des ministres sérieux et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Et naturellement, ma famille politique, j'en suis très, très heureux. Je vais aller les retrouver à Annecy, sénateur et député. J'ai des relations très amical et très cordial avec le président Larcher, avec Laurent Wauquiez, avec Bruno Retailleau et pour les parlementaires qui vont être là. Donc il n'y a pas de problème, chacun aura sa place. Et puis après, il y aura du travail pour tout le monde. Beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup de courage. Hein.
Et lors de sa visite à Annecy, Michel Barnier a donc rencontré les députés et sénateurs de la droite républicaine au centre de congrès impérial Grand Annecy. Lors d'un discours, il a évoqué ses priorités politiques, comme la sécurité, l'immigration, la santé ou encore la décentralisation. Et avant même la nomination du nouveau gouvernement, Bruno Le Maire, lui, a fait ses adieux à Bercy. Très impliqué dans le dossier calédonien, il a prononcé un discours fleuve pour retracer son parcours au cours des 7 dernières années au ministère des Finances. Il a évoqué la crise Covid et le quoi qu'il en coûte. Et avant de partir, Bruno Le Maire a tenu à dresser une feuille de route à Michel Barnier, le nouveau Premier ministre.
La France ne doit pas revenir en arrière. Elle doit continuer de se fixer pour objectif de revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Après des crises, nous avons pris avec les parlementaires une ligne de fermeté sur les comptes publics. Cela ne nous vaut pas évidemment que des amis. Pourtant, la sagesse recommande de tenir cette ligne, de réduire la voilure des dépenses, d'en étaler certaines, d'en reporter d'autres. Toute autre décision conduirait mécaniquement le prochain gouvernement à augmenter les impôts ou à plonger la France dans des difficultés financières aiguës et immédiates.
Extrait donc de ce discours de plus de 30 minutes de Bruno Le Maire alors que le gouvernement n'est toujours pas nommé. Dans l'actualité internationale, de nouvelles frictions diplomatiques entre la France et l'Azerbaïdjan. Un Français a été condamné à 3 ans de prison pour un graffiti dans le métro à Bakou. 3 ans de prison, alors que ses 2 co-accusés d'une autre nationalité ont été simplement condamnés à une amende, Léana Colombo.
Effectivement, et son avocat va faire appel de cette décision qu'il qualifie d'illégitime et de particulièrement sévère. De son côté, le ministère des Affaires étrangères dénonce le traitement arbitraire et ouvertement discriminatoire dont est victime le graffeur Théo Clerc, âgé de 38 ans, qui exerce son art dans de nombreux pays. Cette décision de justice s'inscrit dans le contexte de fortes tensions entre Paris et Bakou. La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères avait invité les Français à ne pas se rendre en Azerbaïdjan en raison d'un risque d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement arbitraire.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h45.
Le chantier de Notre-Dame de Paris touche à sa fin. La grande ouverture est prévue le 8 décembre prochain. Et hier, les 8 cloches du beffroi nord, sévèrement touchées par les flammes il y a 5 ans, ont fait leur retour dans la cathédrale. Minutieusement nettoyées et rénovées depuis un an, elles ont donc reçu une bénédiction au pied de Notre-Dame en plein cœur de ce chantier. Antoine Bienvaux a assisté à cette cérémonie pour Europe 1.
Les yeux embués par l'émotion, coiffé de son indispensable casque de chantier, Monseigneur Ribadeau Dumas, recteur archiprêtre de Notre-Dame, bénit les 8 cloches du beffroi nord. Une étape fondamentale de la longue restauration de la cathédrale.
Ces cloches sont invitées à rassembler les fidèles, rassembler aussi la nation française, parce que nous savons que Notre-Dame dépasse bien largement le cercle des croyants.
Pour conclure sa bénédiction, Monseigneur Ribadeau Dumas fait sonner l'une des cloches accrochée quelques instants au bras d'une grue. Désormais bénies, les cloches seront réinstallées au sommet du beffroi dans les prochains jours. Une tâche relativement facile grâce à la prévoyance des bâtisseurs de la cathédrale au XIIe siècle, comme l'explique Philippe Jost, président de la restauration de Notre-Dame.
Ils avaient prévu dans toute la hauteur de la tour des trappes circulaires. Et lorsque vous avez besoin de descendre ou de monter une cloche, vous avez déjà un cheminement vertical qui est à portée de main.
Il faudra cependant attendre la réouverture le 8 décembre pour entendre à nouveau les cloches sonner dans le ciel de Paris.
Le reportage d'Antoine Bienvaux pour Europe 1. Il est 6h passé de 47 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Ce sera juste après la pub avec notamment le collège de Tuban qui reprend petit à petit une vie normale.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Jusqu'au 30 septembre, lancez la roue de la chance Excellium avec Total Energy. Participez et gagnez des cartes cadeaux carburant. Un pack Apple avec un iPhone 15 et son AirPod Max. Un VTT électrique. Et plein d'autres cadeaux pour une valeur totale d'1 million de francs. Alors rendez-vous dans votre station Total Energy préférée pour lancer la roue de la chance et gagner des super cadeaux. Plus d'infos sur Facebook, règlement disponible en station.
Hey, le mois du pick-up, c'est en septembre au Village Automobile au PK4. Des prix exceptionnels sur tous les pick-up. Une occasion unique pour repartir au volant des légendaires Isuzu D-Max, Peugeot Land Trek, Great Wall Motors King Kong et Wingle 7. Des offres à partir de 2 895 000 francs TTC seulement. Alors rendez-vous au Village Automobile au PK4 Nouméa, ouvert la semaine en continu et aussi le samedi matin. Offre valable jusqu'au 30 septembre 2024 sur les véhicules disponibles en stock, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Décrit dans la cour, des jeux, depuis 4 semaines maintenant, les élèves ont pu retrouver leur salle de classe au collège de Tuban. L'établissement avait été fermé de longues semaines en raison de l'insécurité persistante dans le quartier. Des élèves qui avaient même dû être scolarisés dans 3 autres collèges en attendant le retour au calme. Depuis la rentrée, les choses se sont stabilisées. Hier matin, le haut-commissaire Louis Lefranc a rendu visite à la communauté éducative et à ses élèves. Et il a pu constater que le calme était revenu dans le quartier et que les élèves avaient repris une vie normale.
Beaucoup d'espoir, la confiance retrouvée dans cet établissement. On entend souvent vivre ensemble une volonté réelle, ressentie pour les jeunes de se retrouver dans cet établissement dont ils ont été privés pendant de nombreuses semaines. Enfin, tout le monde heureux de retrouver une vie normale dans ce collège qui n'aurait jamais dû être fermé. Voilà. Donc moi, je suis très favorablement impressionné par cette capacité de rebond, cette capacité d'aller de l'avant, de ne pas se résigner. En fait, ce que je tire comme conclusion, c'est la volonté de retrouver une vie normale, une scolarité normale, la volonté de tourner cette page qui restera un mauvais souvenir pour tout le monde.
Et de son côté, David Bernouilly, le proviseur du collège de Tuban, est ravi de voir les élèves revenir avec le sourire et parfois même en vélo, preuve que le calme est revenu ainsi que la confiance.
Une grande sérénité autour du collège, ça se traduit par la vie dans le quartier qui a repris,
avec des gens qui circulent, des familles qui déposent les enfants ravis avec le sourire, les équipes qui font leur travail et la dynamique du collège de Tuban qui a pu reprendre. Il y a eu quelques dégâts et tout a été réparé, à la fois par les personnels, mais aussi pour beaucoup par la province sud qui a mandaté des entreprises qui sont intervenues pendant les vacances, avant les vacances, après les vacances. Presque tout est réparé, il nous reste au niveau des plateaux sportifs des choses à régler. Un grand remerciement pour tout ce qui a été mis en place et faire en sorte que toute la communauté du collège puisse reprendre ses activités et soit sereine pour le faire. Nous avons repris nos fonctionnements habituels et ça ravit tout le monde.
Et hier, les élèves ont donc pu échanger avec le haut-commissaire, mais aussi avec Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement, vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement, qui a aussi participé à cette visite. Ils ont pu s'exprimer sur la façon dont ils ont vécu cette période, mais aussi sur les quelques difficultés qui persistent encore après la destruction de certains équipements sportifs. Dans le reste de l'actualité ce matin, le dispositif Cap Citoyen qui a repris hier, 21 élèves de la classe défense du collège de Bouraille ont pu profiter d'une journée riche en ateliers et découvertes à la base navale de Nouméa, Léana.
Et ces élèves de 3e ont pu découvrir le monde de la marine. Au programme, une visite de bateau, une rencontre avec les marins-pompiers, mais aussi les anciens combattants. Les élèves ont aussi eu droit à une sensibilisation et une démonstration de légitime défense. Comme exercice, les militaires ont simulé l'intrusion d'un individu remis aux forces de l'ordre. Une équipe déployée, un chien également, encadré par l'équipe cynophile. Un moment d'un réalisme qui a impressionné les élèves sur place.
Personnellement, de cette journée, j'ai retenu pas mal de métiers et de personnes qui travaillent dans justement la marine. J'en ai découvert des métiers, découvert des zones, découvert aussi des moyens comme les armes que j'avais déjà maniées avec un permis militaire, mais aussi la force des chiens qui est assez intéressante et assez forte aussi.
La force du chien, quand il nous mord, c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il nous attrape comme ça sans rien. Les réglages, surtout du sniper, donc qui sont vachement intéressants, vu qu'il y en a un qui était tireur de précision, et ça, ça m'intéresse.
Ça m'a appris beaucoup de choses, notamment aussi pour l'histoire géo aussi, c'est très important. Donc, surtout que je suis en année de 3e, donc c'est important pour le brevet. On va dire que c'était magique un peu parce que, bien sûr, on voit les films, on voit la télé, mais on n'a jamais vu vraiment en réel aussi.
Cette journée Cap Citoyen permet aux militaires de la marine de faire découvrir leur métier afin d'appeler les jeunes à s'engager au sein de la marine. Le prochain Cap Citoyen aura lieu le 17 septembre avec les élèves du collège de Dumbéa, Francis Carco.
Et puis une distribution pour les animaux, victimes bien souvent collatérales des exactions. Le gouvernement a fait plusieurs donations hier, avec notamment une distribution alimentaire qui était organisée à la minoterie de Saint-Vincent en collaboration avec Cheval Distribution. 2 tonnes de nourriture pour animaux ont pu être données à 7 associations. Et un peu plus tard dans la journée, la SPANC s'est vue remettre 1 million de francs de subventions de la part du gouvernement. Écoutez Isabelle Champmoreau, la vice-présidente du gouvernement, en charge notamment du secteur du bien-être animal.
Il y a plusieurs problématiques en ce moment dues à la situation de crise. Il y a bien sûr beaucoup de départs du territoire et donc il y a aussi des abandons malheureusement dans le cadre de ces départs. Et les associations sont très investies sur le terrain. Il y a aussi des familles qui malheureusement à cause de la crise ont des difficultés à nourrir leurs animaux. Donc nous avons dédié un temps au bien-être animal avec les associations. Tout d'abord, distribution de plus de 2 tonnes d'aliments pour animaux, que ce soit les chiens, les chats, mais également les oiseaux. Avec cette association et ensuite nous avons rendu visite à l'équipe de la SPANC pour leur annoncer que malgré les contraintes budgétaires, nous avons pu dégager une subvention d'1 million pour soutenir le fonctionnement du foyer d'hébergement des animaux de la SPANC.
Et plusieurs associations comme la Bande à Nounou, le Refuge Animalier ou encore SOS Titi étaient présentes pour la distribution alimentaire d'hier. Et enfin, une mise au point de la ville de Dumbéa après l'annulation des marchés organisés au Parc Fayard en septembre. La municipalité rappelle que c'est un arrêté du haut-commissaire qui interdit jusqu'au 30 septembre tout rassemblement, manifestation et cortège sur les 4 communes du Grand Nouméa. Cette interdiction concerne uniquement le domaine public, comme le Parc Fayard, précise la ville de Dumbéa, qui dit comprendre le désagrément que suscite ce type d'interdiction, notamment pour les marchés de proximité. La municipalité invite d'ailleurs les agriculteurs et les artisans à participer au marché communal. Il se tiendra le samedi 5 octobre. Il est 6h55, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et notamment ce bras de fer qui oppose Kylian Mbappé à son ancien club, le PSG.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103.
Le fitness débarque au Quartier Latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et à la une, cette histoire de gros sous. On parle évidemment du litige qui oppose Kylian Mbappé à son ancien club, le Paris Saint-Germain. Il demande le versement d'impayés à hauteur de 55 millions d'euros, soit près de 6,6 milliards de francs. La commission de la LFP demande à Paris de payer, mais le club de la capitale ne compte pas sortir le carnet de chèques. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Le club de la capitale confirme ce soir à Europe 1 refuser d'exécuter l'ordre de la Ligue, à savoir verser, vous l'avez dit, 55 millions d'euros à Kylian Mbappé sous 8 jours, somme qui correspond au salaire d'avril, mai, juin, ainsi qu'une partie des primes à la signature et des tics. Un peu plus tôt, dans un communiqué, le Paris Saint-Germain se justifie, je cite, « compte tenu des limites du champ juridique de la commission pour prendre une décision complète sur ce dossier ». L'affaire doit être contestée devant une autre juridiction. Alors il faut savoir que ce bras de fer a commencé l'été dernier. L'attaquant de 25 ans est mis à l'écart de l'équipe. Le club, évidemment, est furieux qu'il rejoigne le Real Madrid gratuitement, sans indemnité de transfert. Finalement, Mbappé annonce avoir trouvé un accord avec le club. La star aurait verbalement indiqué à la direction parisienne renoncer à une partie de ses primes, sauf que Kylian Mbappé n'a jamais signé cet accord qui se révèle, selon son clan, caduque. C'est donc vers les prud'hommes que Kylian Mbappé devrait se tourner. Juridiction traditionnellement plutôt favorable aux salariés, mais la procédure pourrait être très longue.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Du tennis également dans l'actualité sportive et la France qui est condamnée à l'exploit la nuit prochaine contre l'Espagne en Coupe Davis. Puisque l'Australie a empoché son deuxième succès après avoir battu les Bleus mercredi, les Australiens ont dominé ce coup-ci la République tchèque 2-0. Tanasi Kokkinakis a dominé Jakub Mrnčík, puis Alexei Popirin a battu donc Thomas Machak sur abandon. Il était blessé notamment au mollet. Et puis on termine en bref avec l'actualité du football côté calédonien, puisque les Calédoniennes se sont imposées hier face aux Salomonaises. L'équipe féminine, entraînée par Kenji Vandegou, s'est imposée 2-1 pour son deuxième match du tournoi océanien des moins de 16 ans au Fidji. La prochaine rencontre des Kagou aura lieu dimanche prochain et ce sera contre les Tahitiennes.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et c'est un temps gris et même un peu pluvieux pour aujourd'hui, Thierry.
Oui, Nicolas, tu vois mon vigilance jaune. Donc, pour de fortes pluies et des orages, ce sera sur Thio et Yaté. De fortes averses qui persisteront ce matin. Atténuation des averses, ce sera cet après-midi. Ce matin, le ciel est très nuageux à couvert. Des averses parfois fortes persisteront sur le sud de la côte est, l'extrême sud et plus localement au Loyauté et vers l'île des Pins, ainsi que sur le reste de la côte est. Quelques belles éclaircies pourront se développer sur le nord-ouest et la pointe nord en cours de matinée. Alors, l'Alizé, lui, sera orienté à l'est pour ce matin, légèrement. Il soufflera autour de 10 et 15 nœuds sur la pointe sud, le nord-est et l'île des Pins ainsi qu'au Loyauté. La côte ouest reste généralement déventée avant l'établissement de faibles brises. Cet après-midi, le ciel reste souvent très nuageux à couvert, des averses se développant sur les reliefs et déborderont localement sur l'ouest. Quelques endées persisteront sur l'est. L'Alizé toujours à l'est se maintient autour de 10 à 15 nœuds sur les pointes nord et sud, l'île des Pins, l'est et au Loyauté. Sur la côte ouest, il restera faible, compris entre 5 et 10 nœuds. Les températures maximales pour cet après-midi, 26 à 30 degrés et restent supérieures aux valeurs de saison.
Merci beaucoup Thierry, il va donc faire lourd aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir écouté ce journal.